sur la radio Trentanel,
l'émission du collège de Gignac.
Cette émission vous est proposée par
Alphonse,
Sarah,
Simon,
Anissa,
Anaïs,
Chloé,
Capucine
et Mathéo. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Trentanel, l'émission du collège de Gignac. Vous êtes sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Dans cette émission, nous allons vous parler de l'eau dans tous ses états. On commence avec une chronique sur le 7e art marin avec Zacharia et Mathéo, et Simon nous parlera plus en détail du film Sous la Seine.
Depuis longtemps, l'eau est beaucoup utilisée comme un thème principal dans les films comme Les Dents de la Mer par Steven Spielberg ou Le Titanic par James Cameron et j'en passe. Avant de continuer cette chronique, Mathéo va vous résumer l'histoire du cinéma.
Le cinéma a été inventé en 1895 par Louis et Auguste Lumière, deux frères ingénieurs qui vivaient à Lyon, en France. Ils sont les premiers à avoir projeté un film en public grâce à une machine qu'ils avaient fabriquée. On doit les premiers effets spéciaux à Georges Méliès, un Français qui a réalisé le film mythique « Voyage dans la Lune » réalisé en 1902. Avec le temps, le cinéma a pris beaucoup d'ampleur, il a très vite conquis le monde.
Nous allons maintenant vous raconter quelques anecdotes dans les films en rapport avec l'eau bien sûr.
Prenons exemple sur le Titanic, sorti en 1998. Ce film avait besoin de plus de 500 figurants, éclairés par environ 3000 lampes. Il connut un succès interplanétaire.
Saviez-vous que Dwayne Johnson, alias The Rock, a doublé Maui dans le film Vaiana, réalisé par Disney en 2016? Chloé Capucine vous parlez de ce film plus en détail dans quelques minutes.
Dans le film Les Dents de la Mer, sorti en 1975, les requins mécaniques tombaient constamment en panne. Ce film a eu un impact considérable sur la perception des requins par le public. Beaucoup de gens ont eu peur de se baigner après avoir vu le film.
Jack le singe dans le film Pirates des Caraïbes est un singe appartenant à Hector Barbossa, puis à Jack Sparrow. Celui-ci lui donne comme nom Jack dans le but d'insulter Jack Sparrow lors d'une bataille navale.
Merci de nous avoir écoutés, c'était Zacharia et Mathéo et à très vite.
Bonjour, aujourd'hui je vous présente le film Sous la Seine. Ce film est sorti en 2024, donc il est assez récent. Réalisé par Xavier Jens, en été 2024, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, une jeune activiste dévouée à l'écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Elles n'ont d'autre choix que de faire équipe avec Adil, commandant de la police fluviale, pour éviter un bain de sang au cœur de la ville. Les acteurs sont Nassim Liès, Bérénice Bejo, Léa Lévian, Anne Marvin, Nagisa Morimoto, Anaïs Parello, Inaki Lartigue et Sandra Parfait. Netflix fait face à des accusations de plagiat pour sa dernière production, très attendue. Sous la Seine, le nouveau film de Xavier Jens, annoncé comme un thriller horrifique, en effet, ce Dents de la Mer français et au centre d'une controverse.
Est-ce que Simon, tu peux nous dire ton avis sur ce film? Toi, qu'est-ce que t'en as pensé personnellement?
Moi, j'ai bien aimé ce film. Il est très intriguant surtout, et il est très stressant aussi. Parce qu'il y a souvent des scènes où ils sont à deux doigts de mourir, mais non, il y a d'autres personnes dont tu ne sais pas l'existence qui y arrive. C'est très perturbant des fois.
Et est-ce qu'il fait peur ce film?
Pour moi, non, il fait pas si peur que ça pour un film avec la Seine et des requins.
Mais d'après toi, il fait pas peur, mais ça peut faire peur pour d'autres.
Oui, je pense.
Et du coup, la question, c'est à ton avis, à partir de quel âge on peut le regarder?
Minimum au moins 10 ans pour comprendre déjà le film.
après le cinéma, quelques conseils de lecture aquatique par Lilia.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter 5 ouvrages sur le thème de l'eau. Commençons par le maître absolu des romans d'aventure, Jules Verne bien sûr, qui publie 20 000 lieues sous les mers en 1869. Tout commence en été 1866, lorsque quelque chose d'énorme et de mystérieux est aperçu à divers endroits de l'océan. Ce monstre marin est au début considéré comme une fable, mais lorsque des naufrages commencent à se produire, l'amiral Farragut de la marine américaine est envoyé en mission pour retrouver le monstre. Il fait appel à l'expert océanique, le professeur Pierre Aronnax, du musée d'histoire naturelle de Paris, ainsi qu'au serviteur d'Aronnax, Conseil. Farragut fait également appel à un maître harponneur du Canada, Ned Land, doté d'une vue inégalée et d'une main rapide. Après un choc violent entre le monstre et le bateau, il se retrouve prisonnier à bord du sous-marin du capitaine Nemo, le Nautilus. Ils vont faire un tour du monde des profondeurs, découvrir des trésors, des épaves et l'Atlantide. Il s'agit d'une île qui aurait été ensevelie sous les eaux par Zeus et où vivait une civilisation merveilleuse. Enchaînons avec un autre grand écrivain, auteur de science-fiction et de romans policiers. J'ai nommé Sir Arthur Conan Doyle. Savez-vous que c'est lui, Conan Doyle, l'inventeur de Sherlock Holmes ? Dans la lignée de Jules Verne, il publie Le monde perdu sous la mer, en feuilleton à partir de 1927, puis un livre en 1929. Biologiste audacieux, Cyrus Headley embarque avec 2 compagnons pour une expédition secrète à bord d'une cabine sous-marine. Tandis qu'ils observent la faune de l'océan, une bête terrifiante les attaque. Prisonniers sous l'eau, les explorateurs sont secourus par des Atlantes. Dans ce roman riche en rebondissements, Conan Doyle revisite le mythe de l'Atlantide avec toute la virtuosité d'un maître du mystère. Parmi les auteurs les plus récents qui ont écrit sur le thème de l'eau, je voudrais citer Jean-Claude Mourleva et Henri Bosco. La rivière à l'envers est un roman écrit par Jean-Claude Mourleva. Il se compose de 2 tomes, Tomek paru en 2000 et Anna paru en 2001. L'histoire se passe en un temps où les jeux télévisés n'existaient pas, ni les grandes surfaces, ni même les téléphones portables. Tomek, un jeune orphelin de 13 ans, tient la petite épicerie de son village. Un soir, une mystérieuse jeune fille entre dans sa boutique et lui demande s'il vend de l'eau de la rivière Kjar. C'est l'eau qui empêche de mourir, vous ne le saviez pas ? Tomek lui répond qu'il ne connaît pas cette eau, et la jeune fille s'en va. Tomek décide alors d'entamer la plus grande aventure de sa vie. Il traversera des contrées incroyables, telles que la forêt de l'oubli, le village des parfumeurs, l'île inexistante. L'enfant et la rivière est un roman d'Henri Bosco paru en 1945. Pascalet, jeune garçon solitaire, vit dans un petit domaine agricole avec sa famille en Provence. C'est depuis cette ferme, en pleine nature, qu'il ressent le besoin de rejoindre la rivière non loin de là. Malgré les recommandations des adultes, un jour, il s'échappe et file à travers les champs vers les bords de l'eau. Vous pouvez bien sûr retrouver tous ces livres au CDI. Merci de votre écoute.
On enchaîne avec Anissa et les coraux.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des coraux. Les coraux sont des petits animaux appelés polypes, en forme de mini-anémones de mer qui peuvent constituer des colonies. Mais pourquoi dit-on que les coraux sont des animaux ? Les coraux sont des polypes pourvus d'un squelette calcaire. Ils vivent en symbiose avec une algue, la zooxanthelle, qui lui apporte énergie et nutriments. Les coraux sont de la même famille que les méduses. Les coraux sont aussi un abri pour les poissons, les mollusques et les crustacés. Que mangent les coraux ? Les coraux vivent en symbiose avec des algues qui vivent dans leur corps. Ces algues produisent du sucre dont les coraux se nourrissent. Ils mangent aussi en filtrant l'eau. Quelle est la durée de vie d'un corail ? Les grands récifs coralliens semblent être les plus vieux animaux vivants du monde. La longévité de certaines colonies dépasse de loin celle des tortues géantes des Galapagos, vivant plus de 200 ans. Certaines auraient peut-être plusieurs milliers d'années selon certains experts. La Grande Barrière de Corail. À l'est de l'Australie, dans l'océan Pacifique, se trouve la Grande Barrière de Corail. C'est le plus grand mur de corail du monde et beaucoup d'animaux y vivent. 1500 sortes de poissons, 4000 espèces de coquillages, des baleines et des requins. Mais cette grande muraille de corail est menacée par la pollution et surtout par le réchauffement climatique. Les coraux sont très fragiles, ils ont besoin d'une eau propre, claire et qui ne soit ni trop froide ni trop chaude. Sinon, ils blanchissent et meurent. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Merci Anissa pour cette chronique. Nous retrouvons maintenant Chloé et Capucine et leur article dans les mers chaudes de Tahiti où il y a sûrement beaucoup de coraux.
Bonjour, vous devez sûrement connaître le film d'animation Moana ou Vaiana dans les pays européens. Sorti en 2016, c'est un Disney, plus précisément réalisé par Ron Clément et John Musker. Vaiana est une jeune fille vivant sur l'île de Motunui. Préparée toute sa vie à être reine, quand un désastre menacera son île, elle sera prête à tout pour la sauver, en dépit de l'interdiction de son père de quitter l'île.
La suite est actuellement dans les salles. Il y aura eu un vrai succès. Ce film a apporté 643 millions de dollars à travers le monde et enchanté plus de 5,6 millions de spectateurs français. Dans ce contexte, nous allons vous parler de la culture tahitienne trop peu connue et du lien avec ce film dont il s'est inspiré.
Dans l'histoire de Vaiana, les plus grands marins du monde voyageaient dans le vaste océan Pacifique à la découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais pendant les millénaires qui suivirent, ils cessèrent de voyager et personne ne sait pourquoi. Or, Vaiana s'inspire d'un véritable mystère en Océanie. Les navigateurs polynésiens ont réellement subitement arrêté de voyager pendant près de 1000 ans et après 2000 ans d'exploration.
Le personnage de Maui est directement inspiré du héros de la tradition polynésienne. Il est un demi-dieu dont les exploits sont très populaires en Polynésie et connus de tous. Les premières images de Maui ont suscité une vive polémique en Polynésie car ce personnage est jugé obèse. Un sujet sensible dans la région où plus d'un tiers des Polynésiens sont en surpoids. Cette représentation de Maui a été prise comme une véritable insulte. Une apparence contradictoire avec les représentations habituelles des demi-dieux au cinéma.
Aussi, dans de nombreuses légendes, Maui entretient une relation avec ses parents et ses frères, même si Disney a fait le choix d'ajouter la divinité à son club d'orphelins en constante évolution. De même, dans la plupart des légendes, Maui a également grandi avec plusieurs frères. Les frères de Maui le taquinaient parfois à propos de la petite quantité de poissons qu'il rapportait, mais Maui les récupérait en leur jouant des tours. De même, dans la mythologie hawaïenne, Maui est considéré comme l'un des Kupua, un groupe de demi-dieux et d'escrocs héroïques.
Les mythes et légendes hawaïennes regorgent de tels personnages. Ils sont traditionnellement décrits comme des monstres ayant le pouvoir d'apparaître dans différents types de corps. Ils ont généralement un caractère cruel et sont prêts à détruire et dévorer toute personne qu'ils peuvent attraper. Il existe cependant un nombre de kupua à l'esprit bienveillant, comme Maui qui accorde des soins vigilants aux membres de leur propre famille. De nombreux kupua hawaïens sont considérés comme des dieux ayant un double corps, apparaissent parfois sous la forme d'un homme et parfois peuvent changer de forme et d'une forme animale, végétale ou minérale. Cette dernière possède toujours des pouvoirs surnaturels. Cela reflète également la capacité de Maui à se transformer, qui lui est donnée par l'hameçon magique qui lui a été accordée par les dieux.
Le crabe Tamatoa existe également dans plusieurs mythes, mais il n'a pas une place si importante. Le monde sous-marin où il réside dans le film s'apparenterait sûrement au monde des morts.
Après le chaud, le froid. On retrouve Anaïs avec la banquise.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un peu de la banquise. Alors déjà, qu'est-ce qu'une banquise ? C'est un amas de glace flottante formant un immense banc, comme un iceberg détaché de la banquise. Je vais tout de suite vous parler des animaux qui y vivent. Eh bien, il y a des morses, des phoques, des otaries, des ours polaires et des manchots. Maintenant, parlons des animaux qui vivent en dessous de la banquise. Le phoque de Weddell, apnéiste sous la glace et chanteur, pour elle comme pour les cétacés et les manchots qui évoluent sous ces latitudes polaires, le gras, c'est la vie. C'est en effet grâce à une épaisse couche de graisse protectrice que tous ces animaux à sang chaud arrivent à survivre dans le froid polaire. Revenons à nos moutons. Plutôt à nos ours polaires. Malheureusement, en voie d'extinction. L'ours polaire est inscrit sur la liste rouge de l'UICN en tant qu'espèce vulnérable, avec 8 des 10 populations du monde en déclin. Aujourd'hui, l'ours polaire est principalement menacé par la perte de son habitat liée au changement climatique et à la fonte des glaces. Je vais vous en parler plus en détail. Comme ses causes. Lorsque les émissions de gaz à effet de serre se multiplient, ces gaz agissent comme une couverture autour de la Terre et retiennent la chaleur du soleil. Ce phénomène entraîne alors un réchauffement de la planète ainsi que des changements climatiques. Aujourd'hui, la Terre se réchauffe plus vite que jamais. Les effets que ça a sur le monde. Au fil du temps, la hausse des températures bouleverse les conditions climatiques et perturbe l'équilibre naturel habituel. Cette situation présente de nombreux risques pour les êtres humains comme pour toutes les autres formes de vie sur Terre. Mais que pouvons-nous faire pour y remédier? Nous pouvons tous contribuer à atténuer les changements climatiques. C'est pourquoi je vais vous montrer 6 façons de protéger le monde. Premièrement, économiser l'énergie à la maison, se déplacer à pied, à vélo ou en transport en commun. Consommer plus d'aliments d'origine végétale, éviter le gaspillage alimentaire, réduire, réutiliser, réparer et recycler et potentiellement passer à un véhicule électrique. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Anaïs.
Ensuite, le monstre marin qui a fasciné l'Écosse il y a des années.
Le Loch Ness. Nous connaissons tous la légende du monstre du Loch Ness, une bête serpentine qui se cache dans les profondeurs du Loch Ness en Écosse. Cette créature attire aussi bien les chasseurs de monstres que les scientifiques perplexes. Cette renommée a fait du monstre du Loch Ness la créature la plus aimée et la plus mystérieuse d'Écosse. Mais existe-t-il vraiment? Pour commencer, qui est-il? Le monstre du Loch Ness est une créature marine et l'un des mythes les plus durables du folklore écossais. Il est généralement décrit comme étant grand avec un cou et une ou plusieurs bosses qui dépassent de l'eau. Il a été décrit comme un poisson monstre, un serpent de mer ou un dragon. Depuis les années 40, le monstre du Loch Ness est affectueusement appelé Nessie. Il a même son propre parc, le Loch Ness Center and Exhibition, créé en 1980. Il attire les visiteurs du monde entier. Quelles sont les preuves? La première apparition du Loch Ness, signalée à l'époque moderne, remonte au début des années 1870, lorsque Dee McNaizy a affirmé avoir vu quelque chose se tortiller et agiter dans l'eau. Mais un article du Inverness Courier, un journal local écossais publié le 2 mai 1933, est la première apparition la plus connue car l'article a attiré énormément d'attention. Il relatait l'observation d'une énorme créature avec le corps d'une baleine roulant dans l'eau du loch. Repérée par Aldi McKay, alors qu'elle et son mari roulaient sur l'A82, le terme « monstre » aurait été utilisé pour la première fois dans cet article qui est rapidement devenu un phénomène médiatique. Après que cette histoire ait vu le jour, les journaux londoniens ont envoyé leurs correspondants en Écosse et l'un d'eux a même offert une récompense de 20 000 livres à quiconque pourrait capturer la bête. Le 21 avril 1934, le London Daily Mail publia une photo qui changea à jamais l'image de Nessie dans notre imaginaire. Elle aurait été prise par le respectable Robert Wilson, médecin londonien, et est encore rappelée à ce jour la photographie du chirurgien. On voit une créature à moitié submergée avec un long dos élancé, un cou courbé et une tête pointue. Et cela a déclenché un engouement sans précédent dans l'histoire de la cryptozoologie, c'est-à-dire la recherche des animaux dont l'existence ne peut être prouvée de manière irréfutable. En attirant les touristes dans les Highlands écossais qui espéraient voir par eux-mêmes la créature nageant dans le Loch Ness. Au printemps 1938, le touriste sud-africain Monsieur Taylor a filmé quelque chose dans le lac pendant 3 minutes. Le film a été ensuite récupéré par l'écrivain de vulgarisation scientifique Maurice Burton et une seule image du film a été ensuite publiée dans son livre de 1961. Par ailleurs, en juillet 1955, Peter McNabb a pris une photographie qui semblait représenter les deux longues bosses noires dans l'eau. Et je pourrais vous parler de bien d'autres preuves encore. Alors, existe-t-il vraiment? Pendant 60 ans, la photo a été considérée comme une preuve de l'existence du monstre. Cependant, en 1994, il a finalement été établi que la photo était un canular. La créature sur la photo était en fait un jouet sous-marin avec une tête et un cou fabriqué à partir de pâte à bois. Après avoir été publiquement ridiculisé par le Daily Mail, le chasseur de gros gibier, M. Waterell, avait décidé de se venger en élaborant cette farce, donnant la désormais célèbre photo de Nessie au célèbre médecin pour qu'il la vende au Daily Mail. Pour la vidéo, il a été conclu plus tard qu'il ne s'agissait que d'un objet flottant, et la deuxième photo n'était que des bateaux de pêche qui se déplaçaient de façon rapprochée. Et toutes les autres preuves, elles ont toutes trouvé un raisonnement scientifique. Finalement, le débat continue à acharner autour de l'existence de Nessie et de son identité semble finalement avoir pris fin en mai 2019. Des chercheurs néo-zélandais ont entrepris un gigantesque projet visant à documenter chaque organisme du lac qui nage dans le Loch Ness, en se basant sur des prélèvements environnementaux d'ADN. Les rapports ont confirmé que Nessie aurait pu en fait être une anguille européenne géante. Aucun échantillon d'ADN de requins du Groenland ou de plésiosaures ou autres reptiles marins n'a pu être trouvé. Les scientifiques semblent bien croire que ces anguilles géantes explique la plupart des observations de Nessie au fil des ans.
Et le meilleur pour la fin, ma chronique en profondeur sur les abysses. Que sont les abysses ? Les abysses sont une zone sous la surface de la mer. Dans les abysses, il y a différentes créatures étranges comme le blobfish, c'est un poisson qui ressemble à une sorte de visage écrasé, le grand gousier pélican, un serpent de 2 mètres qui peut manger des proies plus grandes que lui grâce à sa bouche extensible, ou d'autres créatures. Entre 1872 et 1876, l'expédition du Challenger parcourt le monde en se livrant à des relevés de profondeur et de faune abyssale. C'est la première fois qu'on s'intéresse aux abysses. La cartographie des abysses débute avec le géophysicien et géodéiste hollandais Felix Andries Vening Menes, qui peut utiliser des sous-marins de la flotte néerlandaise à des fins scientifiques entre 1923 et 1930. En 1956, c'est le célèbre explorateur français Jacques-Yves Cousteau qui prend en sous-marin les premières photographies de la zone Adal, synonyme de abyssal, en sous-marin dans l'Atlantique. La plus grande fosse océanique connue à ce jour est la fosse des Mariannes. Elle est située dans l'océan Pacifique au large du Japon. L'ensemble de la fosse a une forme de croissant orienté nord-sud, mesurant environ 2550 km de long et 70 km de large. Le point le plus bas connu, baptisé Challenger Deep, a une profondeur, selon les derniers relevés en 2010, de 10 984 mètres, soit plus grand que l'Everest si c'était une montagne. Seuls 24,9% de l'océan a été cartographié et 5% exploré.
J'espère que cette émission vous aura plu. À la prochaine.
Elang wa yau. Eh, kuna ni mo tuko ulu. Toi hai mai lava ke manino.